Utopod 042, 31 juillet 2010, Menvat Story de Michel Gilevec. Bonjour à tous et bienvenue dans Utopod, podcast francophone des littératures de l'imaginaire. Aujourd'hui, vous allez entendre Menvat Story, nouvelle de Michel Gilevec. Ce texte est paru en 2005 dans la revue Brin d'Éternité, puis a été repris dans Noir Nouvelle, recueil publié en 2008 par les éditions des Intouchables. Michel est né en 1971 dans les Laurentides, au Québec. Il a signé une quinzaine de nouvelles de SF et de fantastique dans diverses revues, dont Solaris et Galaxy, avant de voir ses textes rassemblés sous forme de recueil. Menvat Story fait partie d'un cycle de récits qui développe un univers futuriste où sévissent des clowns vengeurs aussi impitoyables qu'horrifiques. Après un premier roman jeunesse en 2006, Samuel de la Chasse-Galerie, Michel entame l'écriture de deux séries, Ariel Queen et 66, dont les différents tomes paraissent aux éditions des Intouchables au Québec et chez Hugo et compagnie en France. Il a été finaliste de nombreux prix, dont les prix Aurora et Cécile Gagnon, ainsi que le Grand Prix de la jeunesse de la SFFQ. La lectrice du jour est Stella Giuliani, dont vous avez découvert le talent dans l'épisode 041. Stella est née en Suisse en 1987. Diplômée de la Manufacture, la Haute École de Théâtre de Suisse romande, elle habite Lausanne et évolue professionnellement dans des domaines aussi variés que le théâtre, le cinéma, la télévision et la danse. Le son et les dialogues masculins sont de Cédric Simon, que nos auditeurs connaissent bien. Et maintenant, cap sur les sombres chapiteaux du futur, préparez-vous au spectacle et place à la littérature.
Menvat Story de Michel Gilevec. Le gouvernement légitime représente le seul vrai pouvoir. Les adeptes de la religion Audi et leur ridicule gouvernement illégitime contreviennent à nos lois et doivent donc être contenus. Les clowns vengeurs ne peuvent se substituer aux unités punitives. Leur permis de violence est une farce monumentale. Colonel Virgil B. Eldoradoc, 2165. Sommet universel des forces punitives et carcérales. Il caressa une dernière fois ses fins cheveux dorés, remonta la couverture par-dessus ses épaules d'enfant et sortit de la chambre sans faire de bruit. Dans le couloir, il croisa Rose, la nounou borgne. Consciente de son grand âge, elle s'était fait implanter un œil vigie, ce qui lui permettait de demeurer alerte en toute situation, même pendant la nuit. Il lui adressa un signe de tête discret pour lui passer le flambeau. C'était maintenant à elle de veiller sur la petite. Il se dirigea ensuite vers son bureau. La porte coulissante s'esquiva devant lui dans un bref sifflement électrique, et il pénétra à l'intérieur. Après s'être installé à sa table de travail, il appuya sur une touche et attendit l'éclosion du miroir holo. Ceci fait, il examina ses traits dans la glace puis appliqua sur son front l'embout d'un des tubes automaquillants. En un instant, sa peau devint aussi blanche que du lait. Il saisit rapidement un autre tube et marqua chacune de ses joues. Deux cercles rouges, de forme parfaite, se mirent aussitôt à croître sur ses pommettes. Il se servit du noir pour dessiner deux sourcils en forme de flèche au-dessus de ses yeux verts. Le tube alla ensuite se promener sur ses lèvres, et il retrouva instantanément son faux sourire d'Audi Menvat, à la fois artificiel et monstrueux. Il ouvrit une petite boîte en cristal et y choisit un nez de clown, qu'il fit rouler entre ses doigts avant de le fixer sur son propre nez. Il s'admira une dernière fois dans le miroir, puis se leva et revêtit un long imperméable noir. Un feutre au large bord, noir lui aussi, vint se poser sur son crâne lisse. Il plongea une main dans la poche intérieure de l'imperméable et vérifia que la puce holocom du jeune Tommy était toujours là. Il fixa ensuite une marguerite orange à sa boutonnière, prit sa canne en or, la fit tournoyer dans sa main, puis sortit du bureau. Il quitta son logis biotope en songeant que le châtiment ne tarderait plus à être infligé. Il aimait son boulot. Il aimait recevoir les requêtes des plaignants et y répondre. Il faisait nuit à l'extérieur. Il se rendit sur le toit du bâtiment et s'assura que le stationnement réservé au Jet Speak était désert. Il bondit ensuite dans son appareil et enclencha les réacteurs. Le jet s'éleva doucement et prit la direction du sud, là où s'élevait la tour des travaux. Les habitants de la cité se réunissaient là-bas à chaque début de quart pour y recevoir leurs cartes de tâche. Il survola la ville et repéra sans problème son site d'atterrissage. Il regarda sa montre. 23h00. Et posa doucement le speak dans l'arrière-cour d'une usine. C'était là qu'ils travaillaient tous les deux, le mari et la femme. Ils sortiraient à 23h30 après leur quart de travail. Ils les embarqueraient à ce moment, de force s'il le fallait, et ils les emmèneraient vers la vallée du Nord. Là-bas, à flanc de montagne, au centre d'une couronne de grands érables morts, se trouvait une petite cabane en bois. C'est à cet endroit qu'il exigerait d'eux réparation. Le couple arriva à l'heure prévue. L'homme était grand, mince et d'une hygiène fort douteuse. Ses vêtements étaient usés et sales. La femme était petite, ronde, d'aspect tout aussi négligé. Elle trimbalait un petit sac de cuir et marchait lentement, paresseusement, en se traînant comme une truie qui s'apprête à mettre bas. Il les détesta tout de suite. Ils ne remarquèrent pas immédiatement le jet. Ce fut l'odeur des réacteurs qui attira la curiosité de l'homme. Il s'avança vers l'appareil et l'examina attentivement.
« Un speak ? Ici ?»
s'exclama-t-il. La femme s'approcha et empoigna mollement son mari par le bras. « Allez, viens, Yor !» répondit-elle sans même jeter un regard en direction du jet. « On n'a plus de temps à perdre. Il faut remettre nos cartes de tâche au patron. » L'homme repoussa sa femme et continua d'admirer l'appareil.
« Oh, c'est la première fois que j'en vois un d'aussi près !»
dit-il pour lui-même. Il posa une main sur le fuselage et le caressa doucement. La femme soupira et prit un air dégoûté. « Je vais remettre ma carte, Yor !»«
C'est ça !»
rétorqua l'autre, toujours fasciné par le véhicule.
« Va donc rapporter ta fichue carte !»
Un rire aigu émergea de l'appareil au moment où la grosse femme, son sac de cuir à la main, reprenait sa lente progression vers l'usine.
« Qu'est-ce que c'est que ça ? »
fit-elle en se retournant. L'homme leva les yeux vers le cockpit. Le rire sardonique déchira l'air de nouveau.
« Yor ! »
s'écria la femme.
« Éloigne-toi de cet engin !»
Il recula, lentement d'abord, mais il ne tarda pas à augmenter la cadence. Il courut jusqu'à sa femme. Tous deux aperçurent une ombre noire qui s'élevait au-dessus du jet. Elle avait une forme humaine et c'était elle qui riait. Un rire démentiel ressemblant à un cri de bête blessée qui vous déchire les tympans. L'ombre leva les bras et les tendit vers eux. Ils discernèrent deux mains blanches illuminées par la lune qui tenaient des démembreurs de type panzer. Plus haut, un visage tout aussi blanc déformé par les traits grimaçants d'un clown.
« Yor !»
s'écria la femme.
« Mon Dieu !»
laissa échapper l'homme. La dernière chose qu'ils virent fut l'éclat aveuglant d'un rayon assommoir. L'air leur manqua et ils tombèrent. L'affreux rire les accompagna jusque dans l'inconscience. L'homme ouvrit les yeux. Il toussa et demanda à boire mais n'obtint aucune réponse. Il releva la tête et vit qu'il était étendu sur un lit. On avait attaché ses poignets et ses chevilles au montant de fer. Il regarda autour de lui. Apparemment, il était seul dans la pièce. Le sac en cuir de sa femme était posé sur une petite table, à sa droite. Il se rappela soudain qu'il y avait un pot de zèle à l'intérieur. Il ne discerna pourtant aucun mouvement sous le cuir. La petite chose devait être endormie.
Ou bien elle est morte.
Se dit-il.
Ce qui serait encore mieux.
Il tendit l'oreille. Pas un seul de ces insupportables gémissements ne s'échappait du sac. L'homme entendit une porte s'ouvrir derrière lui. Il tourna la tête à gauche, puis à droite, pour tenter de voir ce qui se passait. Effort inutile. La porte était située dans un angle inaccessible à sa vue.
« Qui est là ? »
demanda-t-il. La voix légèrement chevrotante. Des bruits de pas.
« Qui est là ? »
répéta le prisonnier. Un grand homme tête baissée apparut à sa gauche. Il tenait une canne en or et était vêtu d'un imperméable noir. Les larges bords de son chapeau cachaient son visage. Ses énormes bottes avaient laissé des traces de boue sur le plancher derrière lui. Il fit jouer la canne dans sa main, puis releva la tête. Tous les muscles de Yor se crispèrent lorsqu'il aperçut le visage de l'homme. Il portait un masque de clown. Malgré sa peur, Yor l'examina plus en détail. Il s'était trompé. En fait, c'était beaucoup plus qu'un vulgaire masque, c'était un grimage. Un grimage qui paraissait simple au premier coup d'œil, mais qui, en fait, était étrangement sophistiqué. Les lignes étaient parfaites. On aurait dit que le maquillage avait fusionné avec l'épiderme de l'homme tellement il était réussi. Sur fond blanc était tracée une paire de sourcils coléreux en pointe de flèche et une bouche noire démesurée. Le centre du visage était occupé par un nez rond de couleur sang et par deux cercles rouges qui rehaussaient des pommettes osseuses. Le clown sourit, dévoilant deux rangées de petites dents pointues, et un rire fusa de sa bouche. Il s'agissait du même rire dément qui avait émergé du Jet Speak, juste avant que Yor et sa femme ne soient frappés par le rayon assommoir du démembreur.
« Qui êtes-vous ? »
demanda Yor horrifié. Il dut se retenir pour ne pas laisser ses intestins se vider dans son pantalon crasseux.
« Qu'est-ce que vous me voulez ? »
insista-t-il.
« Qu'est-ce que... »
Le clown leva un index pour l'interrompre, un doigt long et blanc au bout duquel brillait un ongle en forme de poignard. Après un moment, voyant que l'autre gardait le silence, il abaissa le bras et pointa vers le sol. Yor étira péniblement le cou. Lilian réduisait considérablement sa mobilité et vit que sa femme reposait inconsciente sur le sol aux pieds du clown.
« Elle est morte ?»
demanda Yor.
« Vous l'avez tuée ?»
Le clown cessa de rire et sortit un injecteur automatique d'une des poches de son imperméable.
« Je vous en supplie, »
implora Yor.
« Ne me faites pas de mal. »
Le clown se pencha au-dessus de la grosse femme et lui injecta quelque chose dans la nuque. Elle reprit conscience quelques secondes plus tard. Le clown rangea l'injecteur et s'éloigna. La femme fixa son bourreau d'un air désemparé, puis tenta de se relever lentement, en s'appuyant sur le bord du lit où reposait son mari.
« Qu'est-ce que vous lui avez fait ?»
demanda Yor. Sa femme et lui échangèrent un regard où se mêlaient détresse et désespoir.
« Je ne sens plus mes jambes, Yor, »
murmura-t-elle. Ses mains tentèrent d'agripper les draps, mais n'y parvinrent pas. Son large fessier alla s'écraser sur le sol. Péniblement, elle s'approcha du mur pour y appuyer sa tête. C'était le mieux qu'elle pouvait accomplir pour l'instant. Le clown se rendit jusqu'à une armoire située au fond de la pièce et revint avec un petit contenant et un pinceau. Il s'assit sur le bord du lit et, à l'aide du pinceau, commença à appliquer une substance visqueuse sur le corps du mari.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda Yor. Aucune réponse. Il insista.
« Que faites-vous, nom de Dieu ?»
Toujours le silence.
« C'est un clown vengeur !»
dit la femme. Yor tira sur ses liens, espérant réussir à se libérer.
« Un Odi Menvat !»
ajoutait-elle.
« Quoi ?»
Le clown continuait en silence d'étendre la substance sur la peau de l'homme. Il était passé du ventre à la poitrine.
« Cet homme est un clown vengeur, Yor !»
insista la femme sur un ton d'impuissance.
« Il va nous tuer tous les deux !»
Le clown versa le reste du contenant sur le visage du mari et l'étala d'un dernier coup de poignet.
« Arrêtez !»
hurla l'homme, recrachant une partie du produit qui avait coulé dans sa bouche.
« C'est quoi ce truc gluant que vous m'avez mis sur le corps ?»
Le clown se leva et retourna à l'armoire. Cette fois, il rapporta un lecteur holocom qu'il déposa sur le lit. Il tira de sa poche une puce et l'inséra dans la machine. Une voix électronique de femme se fit entendre immédiatement.
Requête numéro 1165, Tommy Elkaf contre Elida et Jorgen Elkaf.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
S'écria Yor. Un hologramme représentant le buste d'un petit garçon se matérialisa au-dessus du projecteur de l'appareil.
C'est Tommy !
Dit la femme. Le garçon ouvrit la bouche et commença à parler.
« Bonjour, monsieur le vengeur. Je suis Tommy Elkaf. Ce sont les parents de mon ami Luken qui m'ont parlé de vous. J'aurai une plainte. »
L'enfant sembla hésiter.
« Une plainte à vous soumettre. Ce sont mes parents. Ils ne sont pas très gentils avec moi, vous savez. En particulier mon père. »
Yor fronça les sourcils et tenta de nouveau de se défaire de ses liens.
« La semaine dernière, »
reprit l'enfant,
« ma tante Eliane m'a rapporté un potzel des territoires de l'Ouest. »
Le garçon prit un air amusé et précisa avec enthousiasme.
« Un potzel, c'est un peu comme un petit chat. C'est aussi doux, mais ça ne grandit pas. »
Puis il devint songeur et se rembrunit aussitôt.
« Papa et maman m'ont laissé jouer avec le potzel pendant toute une journée. J'étais très heureux. Mais quand tante Eliane est partie, papa a pris mon potzel et m'a demandé de le suivre jusque dans la cour. »
Le garçon s'interrompit pendant un moment. La douleur se lisait sur son visage. Il se força à continuer.
« Et là, vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce que mon papa a fait ?»
dit-il en se mettant à pleurer.
« Il a plongé mon potzel dans un baril d'essence et il a tenté de le noyer. »
Tommy hoqueta. Ses épaules étaient secouées par les sanglots.
« Et comme ça ne marchait pas, comme mon potzel ne voulait pas se noyer, papa a décidé de craquer une allumette et de mettre le feu à mon potzel. »
L'enfant cessa de pleurer au bout de quelques secondes et fixa son auditoire.
« Il criait tellement fort, mon potzel criait tellement fort, monsieur, et ma mère... »
Le clown arrêta la projection. Le visage du garçon se figea dans l'espace. Le vengeur sortit ensuite son démembreur et l'activa devant le mari et la femme.
« Il ment, ce petit salopard !»
s'écria Yor.
« Il ment !»«
Non, il ne ment pas !» dit la femme.
« Quoi ?»
rétorqua l'homme.
« C'est bien ce que tu as fait, Yor. Tu as fait griller cette pauvre bête !»
Le mari haussa les sourcils, stupéfait, puis bredouilla.
« Tu es folle ! Tu veux qu'il me tue ?»
Le clown s'avança et pointa son arme vers le couple.
« Je ne suis pas responsable, »
dit la femme.
« Mon mari est un homme violent. Il nous terrorise tous les deux, mon fils et moi, depuis des années. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Je veux revoir mon Tommy. Je lui apporte un autre potzel. Rolly, une collègue de travail, m'en a donné un pour lui ce matin. Il est là, »
ajouta-t-elle, désignant en tremblant le sac en cuir posé sur la table.
« Je ne veux pas mourir, monsieur. Je ne veux pas mourir. »
Le clown remit le projecteur en marche. L'image de l'enfant bougea à nouveau. Le petit sécha ses larmes et ajouta, avec toute la haine du monde dans les yeux.
« Et ma mère n'a rien fait pour l'en empêcher. »
La femme secoua la tête et protesta.
« Non, attendez !»
Le clown déplaça le canon de l'arme de quelques centimètres. Le visage de la femme apparut dans son viseur.
« Ne faites pas ça !»
dit-elle d'une voix tremblante. Il appuya sur la détente. Le démembreur rugit comme un grand félin et cracha un épais rayon sur la femme. Elle n'eut pas le temps de crier. Son corps tomba en lambeaux au pied du lit. Yor se mit à hurler. Il se débattait comme un démon. Plus il s'agitait, plus les liens se resserraient autour de ses poignets et de ses chevilles.
« Ils ont menti, tous les deux !»
brailla-t-il hystérique.
« Je n'ai rien fait ! Je n'ai rien fait ! Ne me tuez pas !»
Le clown laissa tomber le démembreur sur le lit. Pendant un moment, Yor reprit espoir. Le clown avait changé d'idée. Il ne le réduirait pas en pièces comme sa femme. Une des mains du vengeur disparut à l'intérieur de l'imperméable. Lorsqu'elle en ressortit, elle tenait un briquet de couleur argent. D'un mouvement sec du pouce, Lodi Menvat souleva le capuchon du briquet et fit naître une petite flamme bleue dans le brûleur.
« Qu'est-ce que vous allez faire ?»
demanda Yor. Soudain, il comprit.
« Ne faites pas ça ! Je vous en supplie »
cria-t-il.
« Je suis désolé ! Je m'excuse ! Je ne voulais pas faire de mal à cette satanée bête !»
Des larmes coulaient sur ses joues.
« Ce n'était qu'un pot de zèle, après tout »
continua-t-il en sanglotant.
« Vous n'allez pas me tuer parce que j'ai fait flamber un vulgaire pot de zèle !»
Le clown parla pour la première fois. Sa voix était un mélange de notes sifflantes et mélodieuses. Elle semblait sortir tout droit d'un dessin animé.
« Le temps du châtiment est venu !»
déclara le vengeur. Yor le fixa un instant puis ferma les yeux. il devinait la suite. Cette fois, ses intestins se délièrent et il sentit couler les excréments tièdes sous ses cuisses.
« Tu veux savoir qui je suis ?»
demanda le clown.
« Je suis le prix à payer !»
Il éclata de rire, un rire sadique, exagérément sonore, et lança le briquet sur la poitrine de Yor. La substance poisseuse dont il l'avait enduit s'enflamma aussitôt, transformant l'homme en torche humaine.
« Il criait tellement fort !»
avait dit Tommy.
« Mon Podzol criait tellement fort, monsieur !»
Les hurlements de l'homme se perdirent dans la vallée du Nord. Leur écho se répercuta dans les montagnes jusqu'à ce qu'ils se transforment en râlements de bêtes agonisantes. La vie quitta Yor El-Kaf bien avant que son corps ne se liquéfie complètement. Personne, au sud, n'entendit le père du petit Tommy exhaler son dernier souffle. Il rentra à l'aube. Grâce au démaquillant laser, il n'eut besoin que de quelques minutes pour retirer son grimage. La canne en or, le feutre et l'imperméable allaient retrouver leur place dans la penderie dissimulée derrière la grande armoire à linge. Il retira doucement la marguerite orange de la boutonnière et huma une dernière fois son parfum avant de la jeter à la poubelle. Il quitta le bureau et fit un détour par la chambre de Rose avant de se rendre au chevet de sa fille. La vieille nounou dormait profondément, mais son œil vigile restait à l'affût dans l'éventualité où la petite aurait besoin d'elle. Les rayons de surveillance balayèrent le corps de l'homme des pieds à la tête et confirmèrent son identité.
« Vous avez passé une bonne nuit, monsieur ?»
murmura l'œil d'une voix douce. Il fit signe que oui et s'éloigna rapidement, craignant que la voix électronique ne finisse par priver Rose d'un sommeil bien mérité. Sa fille venait à peine de se réveiller lorsqu'il pénétra dans sa chambre. Il s'agenouilla près de son lit et lui caressa la joue. Elle remarqua qu'il tenait quelque chose, un sac.
« Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, papa ? »
demanda-t-elle. Il ouvrit le sac en cuir et le déposa sur le lit. Un petit Podzol gris en sortit. Sa démarche était incertaine. Il fit quelques pas sur le matelas, perdit l'équilibre et tomba face la première dans un repli du drap.
« C'est un bébé Podzol ! »
s'exclama la petite. Elle ne pouvait détacher ses grands yeux bleus de l'animal.
« C'est pour moi !»
fit-elle. Il acquiesça. Ravie, elle prit le petit Podzol dans ses bras et le serra doucement. Il rabattit les couvertures sur la petite et sur son nouveau compagnon, puis sortit.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un épilogue ma foi très court puisque l'été aidant, l'actualité du podcast francophone est plutôt calme. Je profite de l'occasion pour faire un coucou à Florence Sirio, des Lyonnes de la SF, qui poursuit son aventure podcastique en publiant régulièrement des épisodes sur deux flux, celui de l'émission principale et celui du blog des Lyonnes. L'abonnement est gratuit, dans la plus pure tradition de la balado-diffusion. Rendez-vous sur Lyon SF, LYONSF, .podomatique avec un C.com. Voilà, chers auditeurs, je vous laisse pour l'instant et vous donne rendez-vous fin août pour un texte étonnant de l'auteur italienne Adriana Lo Russo. D'ici là, profitez bien de l'été et lisez beaucoup. Bye bye!